Vous écoutez, on lit pour vous.
Des conseils pour économiser à l'épicerie. Un texte de Stéphane Desjardins, paru le 14 décembre 2024 dans Virage. Les ménages canadiens consacrent 15,4% de leurs dépenses à l'alimentation. C'est leur deuxième poste budgétaire le plus important après le logement. Voici quelques conseils pour économiser à l'épicerie. La clé, c'est de planifier ses repas, surtout les soupers, en fonction des offres des circulaires, soutient Julie Brissette, planificatrice budgétaire à l'ACEF de l'Est de Montréal. Elle suggère d'utiliser une application comme Ribi, qui regroupe les circulaires des grandes bannières et d'effectuer des recherches par aliment. Il faut organiser ses recettes en fonction des rabais et surtout acheter de grandes quantités quand des aliments clés sont offerts à prix réduit, car ces offres reviennent de façon cyclique. Par exemple, le beurre ou le bœuf haché coûte cher, mais il se congèle. Il faut éviter les achats impulsifs à l'épicerie, suggère Jean-François Gagné-Bérubé, animateur du combat des circulaires à TVA et fondateur de l'application Glouton, un annuaire de recettes intelligent qui analyse les données des circulaires. Avec une liste de recettes, on profite des meilleurs rabais selon les bannières. Monsieur Bérubé suggère de faire 2 épiceries par semaine en fonction des meilleures offres ou de scinder ses achats en 2 endroits. Ça prend 10 minutes de plus, mais une famille de 4 personnes peut ainsi économiser jusqu'à 100 $ par semaine, ajoute-t-il. Il faut aussi exploiter l'équivalence des prix des concurrents, price matching, effectué par certaines bannières, en apportant sa circulaire avec soi, ou en utilisant Glouton. Les points Boni. On peut réaliser des économies très importantes en payant avec des cartes de crédit spécialisées en alimentation grâce aux points Boni. Certaines cartes sont particulièrement avantageuses, comme la American Express Or de la Banque Scotia chez IGA, la Mastercard BMO Remise World Elite ou la World Elite Mastercard de la Banque nationale. Les cartes les plus généreuses sont celles avec des frais annuels, explique Marie-Ève Leclerc, directrice du contenu web chez Milsopedia, un média de référence qui s'intéresse aux programmes de fidélité. Par exemple, la carte Cobalt est rentable si vous effectuez plus de 13 $ d'achat alimentaire mensuel. Milsopedia offre d'ailleurs un comparateur des meilleures cartes de crédit pour l'épicerie. Encore mieux, dans bien des cas, on bénéficie aussi des aubaines liées au programme de fidélité de la bannière. On gagne sur les 2 tableaux. Par exemple, si un tel programme offre 1 $ de remise pour chaque 1 000 points et que vous accumulez 42 800 points pour une facture de 160 $ taxes incluses, vous économiserez 42,80 $ à la prochaine épicerie. On devrait systématiquement ouvrir l'application d'une bannière avant d'y aller pour connaître les offres du jour ou de la semaine, poursuit Marie-Ève Leclerc. Car certains programmes de récompense demandent d'activer les offres d'avance. Il faut toutefois éviter d'accumuler plus que quelques mois ces points Boni, ce ne sont pas des REER, et les dépenser directement à l'épicerie. Les produits et services offerts dans les boutiques en ligne de ces programmes sont souvent trop chers. Plus d'astuces pour économiser à l'épicerie. On fait son épicerie le ventre plein. À l'épicerie, les aliments situés à la hauteur des yeux sont souvent les plus chères. Les circulaires n'affichent pas juste des rabais. Les autres offres ne sont que de la publicité. Certains rabais sont enfouis dans la circulaire et difficiles à trouver. On diminue la viande 2 fois par semaine au lieu de 3, par exemple. Et l'alcool. Lorsqu'on cuisine, on remplace certains ingrédients par d'autres moins chers. Les aliments transformés coûtent une fortune. Éviter de gaspiller rapporte gros. Chaque famille canadienne jette l'équivalent d'un panier d'épicerie annuellement, selon le Conseil national zéro déchet. On combine donc les restes dans une nouvelle recette. On achète des produits sur le point d'être périmés grâce aux applications comme Flash Food, Maxi, Provigo et Food Hero, IGA, Métro, Rachel Berry, Tradition. Fréquenter les bannières à bas prix, Maxi, Super C, Dollarama, Tigre Géant, peut entraîner des centaines de dollars d'économies annuelles. C'était des conseils pour économiser à l'épicerie, un texte de Stéphane Desjardins, paru le 14 décembre 2024 dans Virage.
Tout le monde dehors. Un texte de Véronique Larocque, paru le 16 février 2025 dans la presse. Une relâche à l'extérieur. En janvier 2024, la Société canadienne de pédiatrie, SCP, a recommandé de favoriser le jeu risqué extérieur chez les enfants. Grimper aux arbres, faire du vélo à grande vitesse, explorer des terrains boisés sans la supervision d'un adulte, s'amuser à se bagarrer. Autant de jeux qui contribuent au développement sain des jeunes et à leur santé physique et mentale, estimait l'association. Un an après la publication de ces directives, les parents sont-ils plus enclins à laisser leur enfant prendre des risques en jouant? J'ai vu beaucoup d'endossements du concept du jeu risqué par les parents, mais aussi par les professeurs et par les professionnels de la santé, répond la pédiatre Émilie Beaulieu, co-auteure de ces recommandations. Une fois que les parents comprennent que le jeu risqué ne signifie pas ignorer les dangers, mais plutôt permettre à l'enfant de prendre des risques dans le jeu libre qu'il désire entreprendre. Il se sent généralement à l'aise avec le concept qui est assez naturel, observe la pédiatre de Québec. Or, elle pense malgré tout qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire pour faire tomber les stéréotypes par rapport aux risques. Par exemple, elle constate que des mères et des pères ont peur d'avoir l'air de parents négligents s'ils laissent leurs enfants jouer librement. Entre savoir que le jeu risqué est bon pour sa progéniture et lui donner l'espace pour en faire l'expérience, il y a un pas que certains ont de la difficulté à franchir. Selon les préoccupations parentales concernant le jeu actif des enfants de 3 à 12 ans à l'extérieur, rapport de l'Université du Québec en Outaouais publié en 2017, 12% des enfants qui grimpent régulièrement aux arbres, 26% des enfants qui jouent régulièrement à des jeux de chamaille, 38% des jeunes de 8 à 12 ans qui se promènent rarement ou jamais seuls dans le voisinage. Un constat similaire ressort d'une recherche parue en 2021 dans VIFA Magazine, une publication de l'organisation M361, auparavant Québec en forme. Celle-ci portait sur l'attitude et les habitudes des parents et des enfants à l'égard de l'activité physique réalisée à l'extérieur. 9 parents sur 10 reconnaissaient les bienfaits de telles activités et indiquaient chercher des moyens de favoriser ou maintenir cette pratique chez leur enfant. Pourtant, de nombreuses études montrent que les jeunes ne bougent pas suffisamment. Les parents savent que c'est important, mais entre le dire et le faire, des fois, il y a des freins à la pratique, remarque Marjolaine Arcan, rédactrice en chef de M361. Selon l'édition 2024 du bulletin de l'activité physique chez les enfants et les jeunes, Participation, 39 % des jeunes Canadiens de 5 à 17 ans qui respectent la recommandation de 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour. Des bienfaits à la tonne. Bouger à l'extérieur apporte effectivement de très nombreux bienfaits, soulignent les différents experts interviewés par la presse. Que ce soit des jeux en général à l'extérieur ou des jeux risqués, il y a énormément de bienfaits pour le développement global de l'enfant. Les sphères cognitives, sociales, affectives, langagières et motrices sont toutes développées par le jeu extérieur, affirme Mathieu Point, professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Si on se penche plus particulièrement sur le jeu risqué extérieur, la docteure Émilie Beaulieu indique que c'est excellent pour le développement cognitif de l'enfant. Ça vient lui permettre de tester différentes choses, de se mettre en situation où la résultante est inconnue, puis de voir ce qui va arriver, détaille-t-elle, en soulignant que procéder par essai-erreur est la base de tout apprentissage. Dans ce type de jeu, l'enfant est aussi très actif, ce qui lui apporte des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Risqué ou non, le jeu extérieur entraîne plus de collaboration. Mathieu Point, dont les travaux portent notamment sur l'enseignement en plein air, donne l'exemple d'un jeune qui souhaite construire une cabane. Certaines branches sont trop grosses, donc il va demander de l'aide aux amis pour réussir à créer son scénario de jeu, illustre-t-il. Cette entraide contribue également au développement du langage. Il y a beaucoup plus d'interactions à l'extérieur qu'à l'intérieur, dit-il, parce que, justement, les enfants veulent coopérer. Dans le même ordre d'idées, la docteure Émilie Beaulieu souligne que des études ont montré une diminution de l'intimidation dans les cours d'école où les jeux risqués sont permis, puisque les élèves qui s'adonnent à ce type de jeu coopèrent davantage. Le milieu extérieur offre aussi un gain en créativité, ajoute Mathieu Point. Les enfants auront tendance à s'imaginer des scénarios, à interpréter des personnages et à transformer des éléments de la nature pour alimenter leur histoire. Une branche peut ainsi devenir l'épée d'un chevalier ou d'une chevalière, par exemple. D'autres bénéfices. Des études ont démontré que le jeu extérieur diminue l'anxiété, permet un meilleur développement de l'ossature, contribue à prévenir la myopie, permet de développer une plus grande connexion avec la nature, renforce le système immunitaire, améliore l'humeur. Vous écoutez « Tout le monde dehors », un texte de Véronique Larocque, paru le 16 février 2025 dans La Presse. L'impact de la nature. Professeure à l'Université McGill et chercheuse au Centre de recherche Douglas, Marie-Claude Geoffroy a évalué l'impact du temps passé en nature sur des élèves québécois dans le cadre du projet École à ciel ouvert. Plus de 1000 enfants fréquentant 33 écoles situées un peu partout dans la province ont participé à cette étude publiée l'automne dernier. On demandait aux enseignants de passer au moins 2 heures par semaine en nature à proximité de l'école pendant 12 semaines de mars à juin, explique la chercheuse. Résultat, on a observé que l'intervention avait bénéficié aux enfants qui, au départ, avaient plus de difficultés sur le plan de la santé mentale. Chez ces jeunes, les symptômes anxieux, l'irritabilité et l'agressivité ont diminué. Entre le manque de temps et le manque de motivation. Si les bénéfices du jeu à l'extérieur sont si grands, pourquoi les familles ne passent-elles pas plus de temps à jouer dehors? Dans la recherche du Vifa magazine, citée précédemment, les parents ont nommé les conditions météorologiques et le manque de temps comme les principaux freins à pratiquer des activités physiques à l'extérieur. Interrogés sur les freins qu'ils percevaient chez leurs enfants, les parents ont parlé du manque d'amis pour faire l'activité et du manque d'intérêt à bouger dehors. Sans commenter directement ces résultats, le professeur Mathieu Point établit un lien entre ce manque de motivation et les jeux que les adultes ont tendance à interdire pour éviter des blessures. Or, ces activités ludiques turbulentes, comme le roi de la montagne, sont recherchées par les enfants, car elles leur procurent beaucoup de plaisir. Lorsque celles-ci sont refrénées par l'adulte, l'enfant a moins envie d'aller jouer dehors. Comment inciter les enfants à sortir jouer? Outre la levée de ces interdits, quel geste peut-on faire en tant que parent pour encourager les jeunes à prendre l'air? La première façon, c'est de jouer le rôle de modèle, d'être emballé par le jeu extérieur. On se retient de dire « ça ne me tente pas, il va faire froid », répond Marjolaine Arcan, rédactrice en chef pour M361. Le professeur Mathieu Point suggère d'amener l'enfant dans un milieu qu'il ne connaît pas, comme de nouveaux parcs ou des milieux naturels. Il va avoir envie de découvrir et d'explorer. C'est d'autant plus vrai s'il est accompagné d'autres jeunes de son âge. Pour l'enfant tout seul, dit-il, c'est un peu compliqué de mettre en place des jeux. Trouver des amis ou des cousins avec qui l'enfant peut jouer va beaucoup plus le motiver que quand il est seul. Monsieur Point propose, par exemple, de se donner rendez-vous dans un parc et de laisser les jeunes jouer ensemble pendant que les parents prennent un café en les observant de loin. Souvent, l'adulte prend beaucoup trop de place et beaucoup trop de décisions dans le jeu de l'enfant. En prenant un pas de recul et en les observant, on en apprend beaucoup sur eux. Des idées pour enfants en manque d'inspiration. Au-delà des activités hivernales classiques, comme le patin ou le ski, il y a mille et une façons de s'amuser dehors pendant la semaine de relâche. Voici une liste d'idées qui pourraient servir d'étincelle aux enfants en manque d'inspiration. De l'espace pour bouger. Hors des murs de la maison, on a beaucoup plus d'espace pour bouger et dépenser son énergie, souligne l'ergothérapeute Cindy Bonenfant. On peut courir, grimper, sauter, ou jumeler toutes ses actions dans un parcours à obstacles, propose celle qui, dans sa pratique, mise beaucoup sur les interventions en plein air. En forêt, par exemple, on peut tester son équilibre sur un tronc d'arbre mort ou encore sauter d'une pierre à l'autre. Glisser autrement. Aller glisser est une sortie incontournable de vos relâches année après année. Et si vous mettiez au défi vos enfants de confectionner eux-mêmes leur bolide de glisse, quand on va le tester, ça peut être vraiment très drôle. Ça peut être un échec total ou une réussite, illustre l'ergothérapeute de Victoriaville, Cindy Bonenfant. Elle suggère d'ailleurs de varier les positions de glisse, assis, couché, de dos. On travaille notre musculation de façon différente. Artiste en herbe. Vos enfants ont la fibre artistique. Pourquoi ne pas faire de l'art dehors? On peut faire un mandala avec des cailloux, des cocottes, des branches de sapin. On fait différents motifs, propose Marie-Claude Geoffroy, psychologue et professeure à l'Université McGill. C'est d'ailleurs une activité qui a beaucoup plu aux participants de l'étude « École à ciel ouvert » qui mesurait l'impact sur les élèves de 2 heures d'enseignement dans la nature par semaine. Printemps, été, automne et hiver. Qui a dit que le soccer était un sport d'été? Qu'une fois la première neige tombée, on ne pouvait plus pratiquer le tennis? Que le fameux jeu de balle au rebond spikeball devait rester rangé jusqu'au printemps? Rédactrice en chef pour M361, organisation derrière VIFA Magazine, Marjolaine Arcan suggère de ressortir l'équipement sportif avec lequel les enfants aiment jouer pendant la belle saison. Avec des amis, on peut même organiser un petit tournoi au parc du quartier. Sous l'abri. Avec une bâche, une table de patio ou des couvertures, on peut créer un abri qui pourra devenir le théâtre de toutes sortes de mises en scène. Est-ce le terrier d'un animal? Une cachette pour se protéger d'un dragon? L'ergothérapeute Cindy Bonenfant invite les parents à écouter les idées de leur jeune et à se plonger dans son scénario à lui plutôt que de diriger, consciemment ou non, la trame narrative. C'est un bon temps, la relâche, pour observer son enfant. Quelles sont ses idées? Comment joue-t-il, note-t-elle? C'est aussi le genre de jeu que plusieurs enfants aimeront faire seuls. C'était « Tout le monde dehors », un texte de Véronique Larocque, paru le 16 février 2025 dans La Presse.
La bibliothèque Gabriel-Roy, un havre dans la basse ville de Québec. Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 21 janvier 2025 dans Le Devoir. Au cœur de la basse ville de Québec, une bibliothèque flambant neuve invite la population vulnérable du quartier à venir se blottir dans son enceinte. « Je viens ici presque tous les jours », raconte Micheline, les yeux fatigués par une nuit au refuge. À Gabriel-Roy, elle vient chercher un peu de chaleur, de la chaleur humaine. Dehors, la température ressentie est de moins 23 degrés Celsius. Un froid qui fouette et qui rend désert les trottoirs habituellement fréquentés de la rue Saint-Joseph. Les seuls à mettre le nez dehors pressent la cadence, frigorifiés sous leur armure hivernale, leur tuque, leur foulard, leurs gants, leurs manteaux. D'autres chaloupent à pas lents jusqu'aux portes de la bibliothèque Gabriel-Roy, avec des sacs qui rassemblent l'ensemble de leurs bagages. Sacs d'épicerie pleins de vêtements usés, sacs de couchage fanés par les nuits sur le trottoir, sacs à dos lourds du parcours qui les a menés jusqu'à la rue. « Je peux passer la journée ici sans que personne me dérange », explique Micheline au Devoir. « C'est rare, ça, pour du monde comme moi. » Derrière le seuil de la bibliothèque, ces malheureux et malheureuses trouvent non seulement un refuge contre un lundi glacial d'hiver, mais aussi contre le jugement qui les toise dehors. Ça a toujours été dans la philosophie de la bibliothèque Gabriel-Roy, cette sensibilité à l'inclusion, explique son directeur Éric Thérien. Nous avons toujours eu à cœur d'accueillir tous les publics sans discrimination et de s'assurer que tout le monde soit traité également. Il n'est pas encore midi que, déjà, quelques dizaines de sans-abri peuplent le hall d'entrée. S'y saluent et s'y réchauffent. Certains s'assoupissent à une table, plusieurs profitent de l'Internet gratuit, d'autres s'assoient pour tout simplement passer le temps. Saint-Roch, c'est Ground Zero. Ouverture au public en juillet 2024, après une cure de jouvence de 43 millions de dollars, la bibliothèque Gabriel-Roy a retrouvé un quartier Saint-Roch amoché par la pandémie et par l'économie inflationniste qui lui a succédé. La détresse mentale, la toxicomanie et l'itinérance vont en s'aggravant dans le secteur, constate M. Thérien. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille à Gabriel-Roy et ce que nous vivons présentement, nous l'avons toujours vécu. Mais c'est vrai que c'est plus important depuis les dernières années. J'ai l'impression que ce n'est pas propre au quartier Saint-Roch. Nous observons ça dans tous les centres-villes. C'est Ground Zero, ici, illustre un policier pendant sa ronde quotidienne dans Saint-Roch. La bibliothèque, c'est un peu devenu une deuxième Laube-Rivière, ajoute-t-il, en référence au plus grand centre d'accueil pour sans-abri de Québec. Gabriel-Roy n'a pas fermé ses bras à la misère devant l'augmentation des besoins. Bien au contraire. Depuis son ouverture, il y a une nouveauté pour la population plus démunie de la basse ville. des intervenants qui accueillent et accompagnent les personnes vulnérables qui la fréquentent. Cette mesure, aussi en vigueur dans certaines bibliothèques de Montréal et de Drummondville, est une première dans la capitale. Ça vise à favoriser une cohabitation harmonieuse et à accompagner les plus démunis vers l'aide qui peut leur être apportée, souligne Éric Thérien. Nous ne voulons pas mettre les plus vulnérables dehors et passer à autre chose, soutient le directeur de la bibliothèque. Nous voulons au contraire les garder pour leur faire valoir les avantages de la bibliothèque, l'un des derniers remparts d'une vision qui prône l'égalité des chances et la possibilité offerte à tout le monde d'accéder gratuitement à la culture et au savoir. Tendre la main. Cathy, la nouvelle intervenante sociale embauchée récemment, papillonnait d'un usager à l'autre. Ici, il fallait gérer la panique engendrée par un téléphone perdu. Là, désamorcer une prise de bec naissante. Il fallait surtout placoter et respecter ces gens vers qui les mains se tendent rarement. En poste depuis seulement quelques jours, Cathy connaît déjà plusieurs d'entre eux par leur prénom. Un deuxième intervenant viendra bientôt l'épauler grâce à l'octroi d'un budget supplémentaire par la ville. Un intervenant, c'était bien, mais je dirais que deux, c'est encore mieux, remarque Éric Thérien. Ça va permettre de mieux accompagner les gens. Des fois, ça peut être des gens juste un peu désorganisés qui ont besoin d'un petit coup de main. Ils cherchent souvent un logement, ils sont mal pris, ils ne sont pas nécessairement encore en situation d'itinérance, mais il y a une certaine détresse. Assez régulièrement, par contre, ce sont des gens sous l'influence de l'alcool et de la drogue qu'il faut encadrer. De l'avis de la direction de la bibliothèque, la cohabitation se déroule plutôt bien. À preuve, avance M. Thérien, quelque 300 000 usagers ont franchi les portes de Gabriel Roy depuis juillet, un record depuis son ouverture en 1983. Parmi ces milliers d'habitués, il y a Micheline, aux yeux fatigués. Assoupie à sa table, elle sort prestement de sa sieste pour enfiler bottes et manteau et sortir griller une cigarette. Et le froid? C'est pas mal moins pire d'aller dehors quand je sais qu'il y a un endroit chaud qui m'attend. C'était la bibliothèque Gabriel Roy, un havre dans la basse ville de Québec. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 21 janvier 2025 dans Le Devoir.